Concernant l'anachronisme ou la vision d'avenir, est-ce qu'il n'y aurait pas un pont d'information entre un point de vue, que apparemment tout le monde a raison dans son point de vue, pour chacun, et est-ce que ça ne resterait pas un peu spéculatif? Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas revenir dans cette vision d'avenir qui serait plus opérative, dans le sens de faire résonner les vertus et l'initiation, le secret, c'est de se secréter justement autour de nous, cette raison de te transmettre à travers... le côté opératif des choses, mais sortir un peu de l'aspect spéculatif pour aller finalement autour de nous, le faire résonner autour de nous. Est-ce que c'est pas ça, finalement, ce qui serait intéressant de développer le pont d'information entre l'anachronisme et cette vision d'avenir ?
Qui s'y colle ?
Peut-être essayer de répondre, parce que la question, je suis pas sûr d'avoir vraiment comprise. Mais puisqu'on revient sur le thème, je suis contente. La maçonnerie au droit humain ne propose pas une vision d'avenir, certainement pas d'avenir radieux, sûrement pas. Et le titre de cette obédience, il est très particulier, il s'appelle le droit humain. Et alors en ce moment, on se demande si on... Où on va ? On se demande où on va. Parce que, comme disait Christophe, entre l'homme branché de partout, c'est-à-dire l'arrivée du transhumanisme, et d'un autre côté, fabrication de robots qui sont de plus en plus humanoïdes, on a d'un côté un homme-machine et de l'autre côté une machine humaine, en miroir, on se demande si on va donner des droits aux robots, on se demande quels vont être les droits des hommes augmentés qui vont vivre 1000 ans. L'homme qui va vivre 1000 ans est déjà né, on nous dit. Alors, quel va être le droit de l'humain ? Qu'est-ce que ça va être un être humain dans les décennies qui viennent ? On peut être très inquiet, c'est une réflexion à très long terme, mais qui s'impose maintenant, et même on est en retard par rapport à ça. Oui, on prend le train peut-être trop tard, on réalise... Trop tard, mais enfin, on n'aurait pas arrêté le train. On n'est pas Superman. C'est pas la vocation de la maçonnerie. C'est vrai qu'il y a cette nostalgie de la Troisième République, ce qui est une époque complètement révolue. Mais depuis quelques décennies, nous sommes dans une société qui est devenue extrêmement complexe à tous les niveaux, où il n'y a jamais de solution simple, où les politiques sont très embarrassés, on le voit sans arrêt, et les maçons aussi, il faut quand même l'admettre. Quand une commission de députés convoque des représentants des obédiences maçonniques pour savoir ce qu'elles pensent du port des insignes religieux dans les écoles, et bien cette commission, Stasi, s'est rendue compte que toutes les obédiences maçonniques avaient des opinions différentes et des argumentations différentes. Et voilà, c'est comme ça, parce que 17 000 personnes au droit humain, elles ne vont pas être toutes d'accord. On va peut-être dégager une majorité, encore faut-il qu'on ait le temps de les consulter toutes dans les temps voulus. Même avec les moyens technologiques modernes, ce n'est pas souhaitable, parce qu'une réflexion bâclée, pour nous, elle n'est pas bonne. Donc, on n'est pas en avance, on n'a pas une vision d'avenir à proposer, on n'a pas des solutions sur tout, on n'a pas de vérité. La vérité est toujours en marche, la vérité se construit toujours avec l'autre, et elle n'est pas limitée. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun en loge va prendre conscience du problème, et va prendre conscience de ce que pense l'autre, et va sortir de cette tenue en loge moins bête. Il aura évolué pour lui-même. Son avenir à lui, il se permet de le changer, de ne pas rester tel qu'il est à l'âge 40 ans où il a fait sa vie, il a son boulot, ses enfants. Il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour avancer maintenant ? En maçonnerie, il va pouvoir avancer, il va pouvoir se poser des questions avec les autres, pas avoir forcément de réponse, mais faire travailler sa réflexion avec les autres, se rendre compte que la situation est toujours plus complexe que ce qu'il croit, qu'il avait plein de préjugés, se rendre compte aussi d'où viennent ses préjugés à lui. Et ça, c'est un travail passionnant, mais... C'est pas une vision d'avenir en soi, c'est certain.
Oui. Et juste pour là encore abonder, mais ça a été dit, il ne faut pas venir, je crois, en maçonnerie, même si nous avons des vécus différents, des pratiques différentes de la maçonnerie, et notamment dans la maçonnerie dite libérale, pour y voir un substitut des partis politiques, des syndicats, des instituts, des collèges. Non. Même si nous abordons, ou certaines obédiences abordent tous ces sujets, en aucun cas la maçonnerie est substitutive de déficit de ces instruments-là de la société civile. La maçonnerie, on l'a dit, c'est multiforme. Chacun y met un petit peu ce qu'il veut, encadré par le groupe qui le reçoit et par les rites qu'il met en pratique. Mais c'est un lieu de socialité, c'est un lieu de bienfaisance, c'est un lieu de questionnement, c'est un lieu d'éveil, c'est un lieu de partage. Donc il y a de nombreuses dimensions et qui sont très générales lorsqu'on les exprime, parce que justement c'est dans le vécu que cela revêt une étoffe concrète. Mais elle n'est surtout pas, et là ce serait de mon point de vue une grande erreur, même dans même au Grand Orient de France ou ailleurs où on parle de sujets politiques, elle n'est pas un parti politique, un syndicat, elle ne saurait se substituer à cela. Et d'ailleurs, nous qui avons des représentations, peut-être avec d'autres obédiences, on citait l'Observatoire national laïcité de Jean-Louis Biansco, la Commission consultative des droits de l'homme, j'ai représenté le grand maître pour le Conseil de l'Europe, nous avons eu l'inspection générale qui nous sont venus. Mais bien sûr qu'ils nous demandent notre avis, mais je ne suis pas certain que nous soyons vraiment écoutés. Et bien souvent, ils nous demandent un avis qui ne sera retenu, et j'en ai l'impression, que s'il abonde dans le sens qui est le leur. Donc, vous voyez les limites de l'exercice.
La franc-maçonnerie irrigue fortement toutes les institutions dont vous parlez, qu'elles soient politiques, syndicales, sociales, etc. Enfin, je veux dire, que font-ils ?
Elle irrigue de manière réticulée, c'est-à-dire elle irrigue par l'action de chacun, par le partage des revues, mais c'est tout. Il n'y a pas une puissance maçonnique unifiée qui, de par son autorité, permettrait d'orienter la société et le corps politique.
Quand je dis irriguer avec des hommes, je veux dire, ou des femmes qui sont à des postes importants des institutions dont vous parlez, que ce soit dans des gouvernements, dans des syndicats, il y a des hommes et des femmes franc-maçon ou franc-maçon, quand même. C'est...
Comme il y avait des Versaillais franc-maçons.
Oui, mais d'accord.
On trouve de tout. Donc, ça ne suffit pas. Ce n'est pas une condition suffisante pour...
Mais nécessaire.
Elle peut être nécessaire, et encore, c'est un conditionnel, elle pourrait être nécessaire, mais en tout cas, elle n'est pas suffisante. Parce que parfois, et c'est le problème, après que l'on a quitté notre loge, on oublie les principes que l'on a essayé de mettre en œuvre dans nos loges. Et c'est hélas un mal commun.
Travail, oui.